Le balado Le Moment d'après, c'est l'occasion de prolonger les moments parfaits à TVA. Bonjour tout le monde, ici Émile Procloutier, interprète de Louis dans Les Moments Parfaits. On vient de voir le 8e épisode de la série et on est maintenant dans Le Moment d'après. Je suis avec Gabriel Sabourin, interprète d'Alex, et on nous a réunis pour parler du thème de la
paternité.
De la paternité. Parce que chacun de nos personnages sont confrontés chacun à leur façon. Alex, 3 enfants. Louis, pas d'enfants pantoute, mais un désir ardent.
Combien il veut d'enfants, là? Dis-le franchement.
Au fond de lui-même, je suis persuadé que pour pas faire peur à personne, il dira jamais 4, là, tu sais, mais je pense qu'il.
C'est ce nombre-là.
J'ai l'impression qu'il serait game d'y aller, là. Oui, tout à fait.
Lui.
Mais il vient d'une famille de 3.
Puis lui, il se voit comme un vieillard entouré de, tu sais, 25 petits-enfants de ses 4 petits-enfants.
Des artistes peuvent avoir envie de mettre au monde des œuvres, autant des gens qui trippent sur je sais pas quoi, la programmation d'ordi, se voient en contact avec ce qui fait leur passion. J'ai l'impression que lui, pas qu'il déteste son travail, mais c'est pas là-dedans qu'il se réalise. Tu sais, t'as des gens, c'est des voyageurs, t'as
oui,
des gens, c'est des bâtisseurs, t'as des gens, c'est
aussi.
Des gens qui veulent prendre soin des autres. Peut-être que lui, dans le fond de son cœur, dans le fond de son âme, c'est un père.
Il s'est rendu compte que de ça.
Ouais. Il s'est rendu compte qu'il essayait fort de se faire croire que c'était pas le cas. Mais que c'est profondément
le cas, finalement.
Ce qu'on
est finit toujours par ressortir, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille faire croire aux autres et à soi-même, ça ressort. Ouais, c'est vraiment, OK. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est touchant dans le personnage de Louis et qu'on suit bien aussi, qu'on va suivre encore parce que moi, j'ai vu des épisodes qui s'en viennent.
De plus loin, moi, je les ai pas vus.
C'est ça qui est tellement beau là, dans ce personnage-là, son besoin, sa quête de paternité que le personnage joué par Bianca ressent aussi. Puis c'est pour ça que tout à coup, ça se peut plus. Et que ils arrêtent de se voir.
C'est une rupture amoureuse qui est pleine d'amour.
Oui.
En fait, c'est comme dire, écoute, je t'aime assez pour pas t'imposer.
C'est ça.
Il a été avec Annie pendant 11 ans. On n'en aura pas, puis on est correct avec ça, puis on ne sera pas ce couple qui se désagrège.
C'est ça.
Puis non, on va s'amuser nous, puis vivre notre vie. Et j'en connais des couples comme ça qui sont très heureux avec cette décision-là, mais lui, sans doute par amour pour elle, a choisi de faire semblant et même peut-être de se faire croire à lui-même qu'il était tout à fait en paix avec cette décision de pas avoir d'enfant. Puis finalement, ça ressurgit, ça remonte. Et puis effectivement, moi, en lisant les textes la première fois, je me disais, OK, lui, tu sais, son métier... on le frôle à peine, tu sais, je pense qu'on pourrait faire un concours, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce gars-là, puis pas tant de monde qui pourrait donner la réponse, tu sais, c'est pas si clair là. Puis moi je le sais,
c'est pas ce qui l'allume
c'est
plus.
C'est pas ça qui le définit.
Ben en fait non, t'sais. C'est ça. Il en parle beaucoup, mais c'est toujours ennuyant quand il en parle.
Parenthèse sur son métier, donc lui dans la vie, quand on a tourné la scène du blind date, donc la rencontre avec cette femme qui pourrait peut-être être sa future blonde et la future mère de ses enfants,
dans le restaurant,
belle, elle est gentille, une belle job, tout ça, t'sais, il fallait créer un genre de début de possible idylle juste avant de tourner. Je me suis dit, ça serait le fun de commencer
Avec une
troisième sous-sol.
Non,
mais
oui,
qu'on se dise, mon Dieu, que ça va pas bien, cette date-là, et qu'ensuite, ça finisse vers la.
C'est exactement
que le soleil
ça
arrive.
C'est très bon.
Mais on était juste avant de tourner, puis je me tourne vers le réalisateur, puis je dis, on peut-tu commencer avec quelque chose comme, juste avant sa première question à elle, juste rajouter un genre de début, au pire, j'ai dit, tu l'enlèveras, mais je pourrais peut-être expliquer mon travail. Tu travailles dans un syndic de faillite, le gars. Puis là, on fait OK. Puis là, je dis, tout, sais-tu qu'est-ce que ça fait? Et là, finalement, il dit, OK, on tourne dans 3 minutes, OK, stand-by, toi. Puis là, finalement, je prends mon téléphone.
Ah oui?
Je l'ouvre.
Ah si, c'est là que t'as trouvé ça.
J'ai juste tapé, je dis, OK, mais juste comme, parce que je le sais, mais sauf que je sais pas comment l'expliquer, comment lui le dirait. J'étais allé sur un site de syndic de faillite pour comme juste, vite, j'ai appris comme la première page d'un site web. Puis là, on a commencé avec cette réplique. Qui est d'un an, parce que c'est important là au syndic de faillite qui nous écoute, on vous remercie d'être là, de veiller au grain. Sauf que des fois de résumer la job en une minute, ça peut avoir
surtout
l'air
en début de scène comme ça dans un restaurant.
Date.
C'est ça. On dit oh ça va pas très bien.
Oui,
dans
et de le jouer en comme quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans son propre marécage. Puis là la comédienne en face de moi qui a rajouté en impro, oh non mais c'est pertinent. Ce qui est le plus bel adjectif.
Oui,
à dire. Après ça, c'est pas comme oh non c'est cool, oh non c'est fun,
c'est
wow.
C'est intéressant, c'est pertinent.
Des gens qui vivent des faillites, là, ça peut être des gens qui doivent éponger leurs dettes, tout simplement, ou encore qui ont atteint leur capacité maximale d'emprunt, ou encore des gens qui se retrouvent avec des successions qui sont déficitaires ou insolvables. Ouais. Mais je veux pas t'emmerder avec ça.
Ah, non, non, vraiment, ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment pertinent. Là.
OK, carrément. En gros, c'est ça, ma job. OK. Je peux te poser une question au piège?
OK.
Toi, ce serait quoi tes plans à court ou moyen terme, mettons?
Wow! trouver un homme intéressant. Mm-hmm. T'es facile à vivre, responsable. Mature, mais pas straight.
Super, OK.
Et qui veut des enfants relativement rapidement. Ah! OK, excuse, je sais que c'est intense de parler de ça une première date.
Non, non, c'est correct.
Puis je dirais qu'il en veut d'ici 3 ans max. Mais question de
tout ce qu'il veut, lui. C'est très bien écrit, cette scène-là. C'est le fun, puis très bien joué. Bravo, les deux, là, vous êtes... parce qu'à ce moment-là, comme spectateur, moi, je me suis dit, une nouvelle vie s'ouvre devant lui. Tout est parfait.
Mais c'est ça qu'il dit, là, aussi.
Papi. Et lui aussi se le dit, puis c'est bon, parce que en plus, dans ton air... gêné et pogné, oui, qu'on voit à l'image.
Je veux surtout pas avoir l'air du gars qui est emballé.
C'est ça, pour mais pas, que ça apparaît partout.
Pour pas faire peur à l'autre, sauf que c'est ça, puis ce que je me dis, c'est l'espèce de checklist qui descend la tête. Ça marche tout.
C'est un match.
C'est ça. Puis mais le plaisir de faire ces affaires-là aussi, c'est que, tu sais, et c'est ce qui me plaît de cette série-là, souvent quand on me demande d'en parler, c'est tout le temps des tout petits matchs de ping-pong.
Ouais.
Amicaux ou non amicaux entre deux personnes, et il y a tout le temps un point de match qui va être atteint à un moment donné dans cette affaire-là, mais c'est souvent c'est à petit déploiement, mais c'est ça qui est le plaisir, oui, comme acteur.
C'est des petits bijoux de scène dramatico-comique, parce que là, tu sais, c'est une situation qui est comme à la fois comique, parce que c'est un match, tout ça, mais les enjeux, c'est lui, il veut vraiment un enfant, puis il s'est séparé pour ça, puis que tout à coup, elle offre ça sur un plateau d'argent, c'est comme formidable, puis la scène plus tard va venir, qui va venir tout scraper.
Peut-être qu'on peut la regarder, d'ailleurs, je te mets au défi de regarder cette scène et de me parler des détails, parce que c'est donc une scène qui se passe tout après la seconde date, là où tout peut se jouer, et ça commence dans un moment idyllique, plein soleil,
oui,
un cadre champêtre, un pique-nique surabondant.
Ben moi, je dirais deux. Là, tout dépend de comment ça se passe avec le premier.
Tantôt. OK. École publique ou privée?
Privée. Ouais.
OK, t'es parfaite, toi. C'est vrai.
Vaccin ou pas vaccin?
Ben, vaccin, évidemment.
Ah!
Un quoi?
Non, c'est parce que moi, ça dépend.
Ça dépend...
Mais du vaccin. Il y en a qui sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui.
Ah.
La progression des allergies, de l'asthme, de l'autisme, c'est arrivé comme ça, là, par magie.
Peu de spectateurs l'auront vu, mais le mode du stade d'Olympique qu'on voit en fond d'écran, le mât du stade plie et devient doucement tout mou. Et il est courbé.
Okay.
Il faut regarder la scène et c'est un moment où est-ce qu'il y a... C'est très, très subtil. Peut-être que peu de spectateurs l'auront remarqué. Retournez voir cette séquence sur le site de TVA, mais dans le plan large, à la fin de la scène, dans le parc, on voit à gauche le mât du stade.
Ce qui exprime...
Tranquillement, ben, je dirais...
Exprime l'état intérieur du personnage.
Ce qu'on appelle une débandade.
De la façon que tu la regardes, évidemment. Là, c'est ça, tout se mêle. Puis on se demande toujours quand il va revenir à la réalité, puis avec l'idée du vaccin, c'est jouissif. La situation de ton personnage, je pense que c'est ça qui est si intéressant, là, c'est que habituellement, dans les stéréotypes, on voit des filles qui arrivent fin quarantaine et qui ont cette espèce d'urgence là de trouver quelqu'un.
Fin trentaine, mettons.
Beau lapsus. Oui. Alors que là, tout à coup, oui, pour les gars, et pourquoi pas, et il y en a plein aussi qui ont ça.
C'est vrai qu'on l'a sans doute peut-être plus vu ou plus entendu des histoires,
ouais,
de « ah ben c'est urgent pour elle, donc j'embarque », tu sais.
C'est ça.
Alors que là, c'est important pour lui. Dans le cas d'Annie, elle n'en veut pas, donc c'est lui qui débarque.
Puis un gars célibataire qui veut un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est toutes ces questions-là que ça vient remuer.
au début, Alex, dans les 3-4 premiers, tu sais, on le connaît pas trop, on le devine, on se dit, ça va se passer dans les regards, puis je me disais, mon Dieu, il va y avoir un défi, l'acteur qui joue ça, parce que des fois, tu te dis, c'est où ma pogne? Mais tranquillement, je sais pas si tu t'es dit ça dans les premières lectures des premiers textes.
Exactement ça, oui, mot pour mot.
Parce que la pogne étant, pour ceux qui nous écoutent, comme il est où mon défaut, c'est ça qu'on veut un défaut, là, tu sais, on veut un problème, on veut une ombre, et des fois, je me disais, ah, ben Alex, c'est un bon papa, il est présent, il pourvoit aux besoins de tous, il a des conseils, puis il est structuré. Puis là, plus ça avançait, quand c'est surtout dans les épisodes comme celui qu'on vient de voir, je me dis, ah ouais, ok, là je pense que la sérieuse
tu commences à
l'avoir ta pogne, j'imagine.
Oui, ben je pense que c'est ce que tu dis, c'est qu'il veut être bien, il veut bien gérer les problèmes qui surviennent et qui confrontent sa famille. Alors il essaie de gérer ça en bon pilote d'avion, dans le sens en homme responsable, pas trop émotif. Là, ça sort de partout, dans le sens que c'est malgré lui, et ça va commencer à teinter toutes ses actions de cette espèce de... Il a voulu comme mettre le capot sous le prestige. Quand il a rencontré Catherine, elle était enceinte déjà. Alors il s'est dit, OK, pas de problème. OK, ça va devenir comme mon fils. Puis on va avoir d'autres enfants ensuite. Puis ça va être tous mes enfants pareils. Sauf qu'en pratique, il y a toutes sortes d'émotions qui se mêlent à ça et qui viennent comme s'insinuer dans la complexité de ce qu'on est. Et c'est ça, je pense, Alex. Puis là, ça sort de partout. Là,
c'est vraiment moi, ce match de basket où est-ce que même les deux ados ou jeunes adultes voient l'immaturité de leur père. Où c'est deux personnes qui font comme, ben là, on s'amuse, puis ça se passe vraiment bien jusqu'à temps que choses arrivent avec trop d'ambition.
Trop
de choses à régler avec lui-même.
C'est ça. Il se bat contre lui-même.
Mais tu sais, en général, on va voir ça avec, être face au débordement d'orgueil d'un enfant dans une activité qui est censée être plaisante, mais que l'enfant est en train de dire, non, moi, il faut que je réussisse, puis si je la mets pas dans le but, c'est grave, puis si tu me touches avec l'épée, c'est grave, puis je serai plus jamais capable, puis je suis pas bon. Alors que
ce que ça dit, c'est qu'on reste finalement des enfants toute notre vie. Au fond, on est des enfants qui essayons
mieux
de jouer.
Mieux barricadés, gérés, oui, avec des comptes en banque, puis des apparences. Mais ouais, c'est
oui, puis cette scène-là est bien faite pour ça, parce vraiment. On s'est bien amusé à faire ce match-là, puis à ce que moi, je sois le frustré de la gang, alors que les autres ont du fun. Non, tu saignes. Je me souviens de Boris Cyrulnik, tu sais, le neuropsychiatre, je pense, qui est formidable, qui est un monsieur, un vulgarisateur de ce que c'est, qui expliquait le processus de l'enfant, surtout jusqu'à 3 ans. Il disait, ça ne prend qu'un pôle de sécurité. Et l'enfant va aller vers le danger et revenir vers le pôle de sécurité constamment. Et toute l'éducation jusqu'à 3 ans, après aussi, mais surtout là dans ces âges-là, se fait par ce va-et-vient entre la sécurité et le danger. Mais il dit le pôle de sécurité, ça peut être n'importe qui. Ça peut être une infirmière dans les orphelinats, ça peut être le père, ça peut être la mère, mais il y a besoin en tout cas d'un... Et que le sang n'a pas d'importance. C'est que, en fait, comme tu dis, la personne qui s'en occupe, qui est la sécurité pour l'enfant. Parce que ceux qui ont adopté des enfants, ils savent très bien, c'est que le lien est là, quand tu t'occupes d'un enfant depuis toujours.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre du construit, puis de la mémoire, puis du sensoriel, puis du
et des milliers de moments passés ensemble, en fait, tu sais, quand on les accumule, ces moments-là, du coucher ou de manger ou d'aller à la toilette, de changer les couches, ils s'en fait des moments partagés, là, entre deux humains. On va regarder une scène où c'est justement mon personnage, tu sais, qu'on dit parfait et qui essaie de bien gérer.
C'est parfait, la situation. C'est un gars
qui s'efforce, c'est ça, de montrer.
C'est un gars qui a décidé qu'elle est un bon gars.
C'est ça, qui fait des efforts aussi. Mais là, ça sort de partout. Puis justement, le tournage de cette scène-là avait été assez rigolo. rigolo pour ça, parce qu'on s'est dit, OK, ben, il se brosse les dents, mais finalement, le geste quotidien prend le bord un peu, parce que il y en a tellement à dire, il pense toujours que c'est la dernière phrase, mais il y en a toujours une autre à dire.
Puis là, il décide de rallonger ça de 4, de 5, peut-être 6 jours. Ben, déménage donc, parti!
Oui, je comprends, mais en même temps, ça fait tellement du bien à Hugo, là.
Non, mais pense-y, là, s'il fallait qu'il débarque ici à tout bout de champ. À l'Action de grâce, à Noël, à Pâques, à l'anniversaire d'Hugo.
Viens donc ici, le gars qui se sent pas menacé.
Non, mais le gars, il a de l'argent. Il peut voyager tant qu'il veut. Ça m'étonnerait pas qu'il veuille faire venir Hugo en Allemagne à ses frais. Jürgen, là, il va falloir qu'il comprenne qu'on est une famille de 5, pas de 6.
Tu sais, ce genre de retrouvailles-là, là, au début, c'est normal que ça fasse des feux d'artifice, mais à un moment donné, ça se calme.
C'est quoi la différence entre un père génétique et un père qui s'est occupé d'un enfant depuis sa naissance?
C'est quoi ta réponse?
Ben moi, je pense qu'il n'y en a pas de réponse, dans le sens que, évidemment, s'occuper d'un enfant, il y a quelque chose du quotidien qui fait en sorte qu'il y a une connaissance des deux, il y a une passation de tellement d'informations, de tellement d'expériences de vie que ça compense le passage génétique. Puis le passage génétique, là, on peut mettre ce qu'on veut là-dedans parce qu'on le sait puis on le sait pas, là, tout ce que ça contient.
Mon avis là-dessus, moi, c'est que j'ai l'impression que le père, c'est celui qui est là.
Qui est là
quand l'enfant arrive au monde. J'ai l'impression que le fait que pour une mère de porter dans elle un humain qui se construit pendant 9 mois, puis si, mettons, l'enfant naît et se retrouve dans d'autres mains, je pense que c'est plus que naturel pour un enfant de dire « mais je veux retrouver ma mère ». Tu sais, je veux savoir c'est qui ma mère, puis je pense que ça va être ta mère toute ta vie, ce qui n'enlève... Tu peux avoir deux mères, celle qui t'a élevé puis celle qui t'a mis au monde. J'ai l'impression, moi, que pour un père, là, le père, c'est celui qui est là. T'es le père, le jour 1 de ta paternité, c'est quand t'es là à la sortie de l'enfant, il arrive dans tes bras, puis je veux dire, ça va être... Qu'est-ce que tu fais avec à partir de ce moment-là? Tu deviens père à ce moment-là, je pense. Puis si c'est pas le géniteur qui est là, ça va être l'autre, puis c'est l'autre qui est légitime, je pense. Moi, c'est moi.
Après... Ce qui prend le relais, c'est l'idée qu'on se fait du père génétique, l'idée que l'enfant se fait, mais que c'est pour ça que des fois ça, le besoin, surtout dans la série, d'aller revoir, de rencontrer notre père génétique. Mais est-ce que ça vient de la société qui nous envoie toutes sortes d'images et de l'enfant qui sait qu'il n'y a pas le père qui l'a élevé n'est pas son père génétique?
En fait, je suis ici pour m'excuser.
Ah, mais c'est pas moi qui ai reçu le coup.
J'avais pas envie qu'on se fasse planter par vous deux. Par toi, particulièrement.
Le coup de coude était vraiment pour moi. Je peux imaginer comment je réagirais si les rôles étaient inversés. Disons que je me laisserais pas battre au basketball.
Quand c'est la paternité qui surgit dans ta vie, dans le cas de Jürgen, mettons... 21 ans après.
Oui.
Tu sais, que tu fais comme. Hey, depuis ce temps-là, sache que depuis 21 ans, t'es un père, tu le sais pas.
Oui,
moi, je connais un gars qui s'est arrivé, là, le ding dong, salut, je suis ta fille, là. Imagine, là.
21 ans, c'est la majorité. T'arrives à. Tu sais, ton enfant est comme prêt à affronter le monde. Mais là, lui, c'est à cet âge-là où tout à coup, tu fais OK, wow, tout est remis en question depuis la naissance de l'enfant, qu'il l'a pris pour son enfant, puis il n'y a pas eu de question, puis l'enfant se posait même pas de questions là-dessus, ce qui est très, très beau, là, dans la situation, que c'était pas un problème dans la famille du tout.
Mais ils ont choisi que les autres proches ne le sachent pas, ils ont dit ceci n'existera pas.
C'est naturel.
Nous autres, je pense que Louis, pas tant au courant, parce qu'à ce moment-là, ils ne font pas partie du secret.
Puis c'est le personnage dans les enfants avec lequel il y a le plus d'affinité, Alex et Hugo. Ils jasent ensemble, ils se conseillent, c'est comme l'aîné, ça. Mais c'est comme l'usure, la réalité de cette situation-là qui peu à peu vient le miner à des endroits auxquels il s'attendait pas. C'est-à-dire que ça le surprend lui-même. Il voudrait pas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est les événements qui font en sorte que peu à peu, il glisse vers ce que vous avez vu et ce que vous verrez, chers téléspectateurs, dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Soyez des nôtres pour Les Moments Parfaits, les mercredis à 20h à TVA.
Les épisodes et les balados vidéo sont aussi disponibles à TVA+ et sur cube.ca.